Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Et le thème qu'on a choisi ce soir, comme d'habitude que vous m'avez proposé et que j'ai décidé de traiter, est celui du mariage. Mais pas sous tous les angles, parce que c'est un sujet très vaste. En fait, je ne voulais pas l'intituler « Non au mariage mixte », mais c'est exactement ce que je veux dire. Donc le titre ne le dit pas, mais le sous-titre le dit. Je voudrais essayer de vous expliquer, en un moment bref, pourquoi l'union en dehors du judaïsme est une union condamnée à l'échec. Alors on a choisi une paraphrase pour dire qu'en fait le mariage est une union pour l'éternité. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Et ça, évidemment, il faut un peu le développer. Selon le droit, au départ, l'homme a été créé androgyne, c'est-à-dire bisexué. Homme et femme à la fois. Et on dit, dans le Midrash, que le Rav l'a séparé du côté mâle, du côté femelle, du côté masculin, du côté féminin. Et ces deux corps étaient reliés par la colonne vertébrale. Ils ont été donc séparés au moment de la création du monde. Or, quel est le but de la vie en un mot, vous aurez tout compris, c'est retrouver l'autre côté, le masculin ou le féminin, je pense que l'on est, pour réussir à faire un couple conforme à la volonté de Hachem. Cette image connote un certain nombre d'idées très fortes. La première, c'est qu'on a tous un alter ego, comme on dit, un autre soi-même, qui a été attaché à notre propre création. Ce n'est pas deux êtres créés séparément, c'est le même être avec deux parties. D'ailleurs, il y a un verset de la Torah qui le définit clairement, qui n'est pas ambigu. Après nous avoir compté les modalités de la création de l'homme et de la femme, la Torah dit dans un verset qu'on va expliquer, « Vaïkra eshemam Adam ». Pas la peine d'être un grand hébraïsant pour se poser la question. Et il les appela, au pluriel, « Vaïkra eshemam Adam ». Donc le mot « Adam » est un concept global qui comprend le côté féminin et le côté masculin. Adam, ce n'est pas un homme. Adam, c'est un ensemble homme-femme. Et c'est celui-ci dont on parle au moment de la création du monde. Deuxième ambiguïté à lever tout de suite, c'est le mot « Isha ». La plupart des gens qui croient connaître l'hébreu, disent, c'est pas compliqué, Ish, un homme, Isha, une femme. Donc, résumé, tragique, une femme, c'est un homme au féminin. Ce qui est une double erreur d'abord grammaticale, parce que Ish s'écrit Aleph, Yud et Shin, et que le Yud fait partie de la racine. Et que par contre, Isha, c'est qui Aleph, Shin, He. Donc, Isha n'est pas le féminin de Ish, mais une autre créature. Si bien que le très grand commentateur, Rabbi Yitzhak Araman, dans son livre Akedat Yitzhak, fait venir la racine de Isha du mot Hachash, Aleph, Shin, Shin, qu'il extrait d'un verset du prophète Isaïe, chapitre 48, dans lequel il est dit « Chizkou vit hachachou ». Soyez forts et courageux. Intéressant, messieurs, en passant. la femme exprime le courage. Ce n'est pas l'homme qui exprime le courage. Bon, le torse, vous avez vu mes pectoraux, vous avez vu mes biceps, vous avez vu tout. C'est la femme. Pour la Torah, c'est clair, elle n'est pas féministe, elle dit le met. Le met, c'est que la femme est plus courageuse que l'homme. Bon, des fois, ça ne se voit pas, mais le fait est là. Pourquoi est-elle plus courageuse que l'homme? D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'elle est physiquement plus faible que lui. Elle doit donc surmonter sa faiblesse par un courage accru. Et dans sa vie, elle va avoir l'occasion, d'abord biologique, de montrer son courage par l'acte élémentaire qui s'appelle la maternité. En effet, une femme peut donner naissance à un enfant, c'est un acte courageux. Il exige de la femme beaucoup d'abnégation, de force, de courage et de satisfaction. Et ça, tout le monde peut l'expérimenter. En effet, moi je sais que chaque fois que j'ai eu un bobo, dans la vie, ma femme me dit, c'est rien par rapport à l'accouchement. Genre, pourquoi tu te plains? Nous, on sait ce que c'est que la souffrance, et nous, on sait ce que c'est que le courage pour la surmonter. Et je crois qu'elles ont raison. Et ceci n'est qu'un exemple de ce que je veux exprimer. La femme est un être courageux pour cette raison-là. C'est que pour l'homme, tout semble jouer d'avance. La force physique étant ce qui permet de s'imposer, en général, il croit qu'il a gagné d'avance. D'ailleurs, cette conception est tellement fausse qu'elle est à la base de très nombreuses mésententes. Je veux dire, l'homme, il pense toujours que par rapport à la femme, « I am the best », en anglais dans le texte, hein. Ça veut dire que, par définition, je suis le meilleur. Dans la Torah, il n'y a rien de cela. Celui qui est quelque chose, il lui appartient de le prouver. De le montrer dans la vie par des actes, et pas par une image. La Torah nous a dit, tu ne feras pas d'image. Tu ne feras pas de statue. La Torah, ce n'est pas Apollon. La Torah, c'est le maître qui prend la forme d'un être humain, qui est créé, lui, à l'image de Dieu. La seule image dont on doit être fier, celle que l'on véhicule, qui est l'image de HaKadosh Baruch Hu lui-même. Donc, je voudrais vous demander à tous d'essayer de ne pas réfléchir en concepts qui ne sont pas de notre tradition, et de refuser toutes ces idées préconçues et acquises. Et comprendre que ce que l'homme et la femme doivent essayer de faire, c'est donc, en gros, de se retrouver pour construire ensemble un être unique. D'abord, il faut se trouver, ce qui n'est pas tellement simple. Je sais que beaucoup sont un peu inquiets face au mariage, je devrais dire inquiètes, à juste titre, parce que je crois qu'il y a un vrai problème maintenant de société, pas de philosophie, qui est l'émancipation, enfin la prétendue émancipation de la femme, qui libère la femme, et qui donc la met, entre guillemets, dans la société active, moi je dirais dans la rue, pour aller chercher son âme sœur. C'est pas comme ça. Ils ont le courage de le dire de la même manière qu'un garçon ne drague pas une fille ne drague pas un garçon. C'est clair? Et je suis moi d'emprunter un langage un peu cru, c'est exactement ça l'idée. Je ne me fais pas belle pour séduire, je Je ne me fais pas beau pour séduire. Je cherche à trouver celle que Hachem m'a réservée. Parce que là, je vais vous donner à tous une très bonne nouvelle. Dès notre propre création, au moment de la gestation, alors que nous étions encore un embryon dans le ventre de notre mère, déjà, notre conjoint ou notre conjointe était créé. 40 jours après la création de l'embryon. Donc, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de statistiques. La question, c'est de savoir comment le ou la trouver. Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand un garçon, par exemple, me présente sa fiancée, ou celle qui désire épouser, je lui dis, dis-moi où tu as connu, je te dirai qui elle est. Tu as compris ce que je veux dire, peut-être. En d'autres termes, si un garçon a connu ici, en boîte de nuit, c'est un peu une sombre histoire. Si par contre, il a connu au chiot de Hoche, ça, c'est Hoche. Non, mais je suis très sérieux. Je veux dire que dès lors que notre rencontre a été envisagée, conçue, dans une atmosphère de Emmet, j'emploie souvent ce mot parce que Torah t'émet. Le seul adjectif où on se connaît de la Torah, c'est émet. Émet qui veut dire bien sûr la vérité, qui est le message divin, par définition, que rien ne peut contenir en dehors du texte de la Torah et de l'ensemble des mitzvot qu'elle contient. Donc, se connaître dans une atmosphère de Torah, par exemple, dans la synagogue, dans un chiour, ou dans un milieu adéquat, c'est avoir mis le pied à l'étrier du bon côté. Autrement, on prend des risques considérables. Je ne parle même pas d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui n'est pas de notre religion. Je vais vous dire très rapidement et très simplement, ma philosophie. Pourquoi ? Réussir une union, je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début du cours en 5 minutes, c'est donc être conforme au projet divin, à la volonté de Hachem. Or la Torah, c'est bien enregistré, c'est bien, n'est pas raciste, genre les juifs et les autres, d'un air méprisant. Non. Quand Hachem a créé le monde, il n'a pas créé les juifs. Il a créé les hommes, toute l'humanité. Et puis, il y a eu une filiation qui a démarré avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël, qui est devenu un peuple que Hachem a choisi en lui disant, vous m'avez donné des gages d'authenticité, de courage. Je vous confie la mission de transmettre mon message au monde. Ça a une autre allure, ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous sommes, mes chers amis, nous les Juifs, les ambassadeurs de la Kadosh Baruch. Ce n'est pas une raison pour se prendre pour des Superman, mais pour au contraire nous rappeler nos obligations, nos devoirs, et pour essayer de comprendre également l'extraordinaire agressivité du monde à notre égard. Je comprends, honnêtement, si j'étais goy, j'aurais des boules. Pourquoi ils ont tout et nous on n'a rien? Pas du tout, on n'a pas tout. Mais on a décidé de tout avoir. Comme je vais donner une définition inverse, nos maîtres disent, qu'est-ce qu'un pauvre? Dans la Torah, il y a deux mots en hébreu pour désigner le pauvre. Ani et Evion. Ani, c'est celui qui n'a pas de quoi manger plus qu'un repas. Il se lève le matin, il sait qu'il va manger à midi, mais le soir, il ne sait pas s'il va manger. À ce point, il est dénudé. Evion, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui veut tout. Rachid dit très précisément, « Mit'avé l'échol d'avar ». Il désire tout. D'où le mot Evion, qui vient de la racine Alachbet-Ré, qui veut dire Ava, c'est-à-dire vouloir. En d'autres termes, il y a deux types de pauvres, celui qui n'a rien et celui qui veut tout. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc cet homme-là va être constamment en quête de quelque chose. Il va vouloir, 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 vouloir. Alors la Torah nous apprend à nous contenter de ce que l'on a et de considérer qu'avec son nom on peut très bien vivre, se débrouiller, être heureux. C'est une philosophie de l'existence. Elle ne se traduit pas par des chiffres, mais par un état d'esprit. Donc, de la même façon, le peuple juif, ce n'est pas un peuple élu dans le sens d'élite, sur de lui et dominateur, comme dit quelqu'un vraiment. C'est tout simplement un peuple qui a accepté, sans en connaître les tenants et aboutissants, la mission que Dieu lui a proposée. Quand on a reçu la Torah, les textes sont très très beaux dans ce domaine, notamment dans la Gemara de Shabbat. Les Juifs n'ont posé aucune question. Hachem leur a dit, adieu au monde, de Dieu Midrash, qui est rapporté également dans la Gemara de Shabbat. Il a tourné, il a présenté à toutes les nations de l'époque. Est-ce que vous voulez ma Torah? Ils ont tous refusé. Du moins, comment ils ont refusé? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors Hachem leur a dit, par exemple, il est interdit de tuer. On ne peut pas vivre sans tuer. Il est interdit de commettre un adultère. Ah non. La fidélité invraisemblable. Il est interdit de voler. Voler? Mais impossible de vivre sans voler. Ils ont tous refusé. Il arrive au peuple d'Israël. Ce que je vous dis, ce n'est pas des baratins. C'est une barat dans Avodah Zara, page 3. Et c'est un midrash rabba, explicite. Quand il est arrivé au peuple juif, la grandeur du peuple juif, c'est qu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ont dit, si c'est toi qui te donnes, c'est que c'est sûrement bien. C'est beau ça. Hein? Ils ont eu confiance. Pourtant, vous savez, les juifs, quand ils achètent quelque chose, ils ne sont pas commodes. Hein? Moi, je plains les commerçants qui doivent vendre aux juifs. Hein? Parce qu'ils ont 10 000 questions. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? La Torah, ils n'ont rien demandé. Incroyable. Incroyable, parce qu'ils ont compris que celui qui l'a donné ne voulait que le bien de celui qui la reçoit. Partant de cette équation, l'histoire a démarré. Et Hachem n'a pas oublié. Des siècles après, la Torah a été donnée en à peu près, au XIIIe siècle avant l'ère actuelle, en 1200 et quelques, a vécu en l'an 700 avant, donc presque 6 siècles, 5 et demi, après le nom de Dieu, un prophète qui est appelé Jérémie. Le prophète Jérémie, dans une de ses prophéties, cite ce que Hachem a dit. Hachem s'est adressé au peuple d'Israël et lui a dit, je me souviens, dit Hachem, de l'amour de ta jeunesse, lorsque tu m'as suivi dans le désert, sans poser de questions, quand on est sorti d'Égypte. En Égypte, bon, on était esclaves, certes, mais on était au top. On mangeait tous les jours. On n'avait pas souci de Parnassa. on dormait tous les jours, on n'avait pas de décision à prendre. Il y avait le patron égyptien qui les prenait pour nous, et nous on suivait le car. Confortable. Et voilà que là, mon cher Amenou dit au peuple, enfin, ceux qui étaient les héritiers d'Abraham, Israël et Jacob, il leur dit, voilà, Hachem m'a envoyé pour vous dire, on va aller dans le désert, recevoir sa Torah, mon Sinaï. J'imagine ce qu'aurait pu se passer. Réunion de tous les juifs, ils disaient, je n'avais eu qu'à une pour parler. On dit, attends, dans quel hôtel on va descendre d'abord? Est-ce qu'il y a la clim? Est-ce qu'il y a des chambres individuelles? Est-ce qu'il y a un service en chambre? Qu'est-ce qu'on va manger? Le désert? Qu'est-ce que c'est le désert? Est-ce que vous étiez un jour dans votre vie dans un désert? C'est très impressionnant. Il n'y a rien à manger, bien sûr. Il n'y a aucun être vivant. Il n'y a que des animaux malfaisants. Il y a des vipères, des scorpions, des bêtes sauvages, des bandits. Il n'y a pas de quoi manger. Il n'y a pas de supermarché. L'angoisse. C'est à peu près comme la rue du Faubourg Saint-Honoré en période de crise, vous voyez. Il n'y a personne. Et ceci pour donner à Israël du mérite, qui a accepté de se lancer, de se jeter, entre guillemets, à l'eau, sans la moindre condition. Voilà comment ça marche. Alors je voudrais à cette occasion, pour faire un clin d'œil au thème du cours, rappeler à tous les jeunes gens ici présents que si ils voient une jeune fille qui leur plaît et qu'ils ont un peu discuté, ils ont les mêmes idées, ils envisagent d'aller plus loin dans leur vie, si à un moment donné il lui dit on y va, si elle dit où, il vaut mieux qu'il laisse tomber. C'est vrai. S'il n'a pas confiance en lui, rien n'est possible. Il y a des jeunes filles qui disent ouais, enfin, comment on va vivre? Tu as des diplômes, tu as un capital, tu sais faire quelque chose de la vie, et elles peuvent poser des questions légitimes qu'on pose dans la vie. Ces femmes-là, ces jeunes filles n'aiment pas leur futur époux. Elles épousent un portefeuille, pas un homme. Vous êtes d'accord, messieurs? Applaudissez! Vous n'oubliez pas, messieurs les jeunes gens, quand vous voyez votre futur cadavre, et puis on va dans le désert, si elle vous répond, c'est écrit avec deux S. Il y a déjà quoi faire. Vous voyez bien que c'est pas simple de créer un foyer, comme c'est pas simple de créer un peuple. Et pourtant, le peuple a été créé, il n'a pas été choisi en arbitraire, il s'est entouré d'un certain nombre de garanties. Précisément, revenons sur ces garanties. Qu'a fait mon cher Amenou, délégué d'Akadosh-Barouh? Il a d'abord envoyé un homme, Abraham, un deuxième, Yitzhak, un troisième Yaakov, pour créer la racine d'un futur peuple. Qu'ont fait ces hommes que j'ai cités? Ils ont enfoui dans la conscience de leurs descendants la nécessité d'une vie morale, conforme à un certain nombre d'idéaux. Alors c'est ça qu'on appelle les Béné Israël. Les Juifs, c'est pas une race. Il n'y a pas de chromosome juif. On n'est pas les héritiers par nos gènes. Vous savez bien d'ailleurs que les Juifs sont sans gènes. Précisément, uniquement parce que nous avons choisi, nous sommes prêts à affronter toutes les difficultés de la vie. Il en est de même dans un couple. Moi, je plains très honnêtement les couples qui se marient avec un patrimoine immobilier ou autre, au lieu de connaître les galères ensemble, à chaque fois, Écoutez, jeunes gens, vous me demandez mon avis avant de se marier. J'aurais dit mariez-vous tout de suite. Et eux, bien sûr, ayant entendu chez leurs parents ce qui est légitime, dans un monde où on n'arrête pas d'angoisser tout le monde. Et mes parents m'ont dit, comment tu vas vivre? Bon, tu n'aimes ce garçon, d'accord, mais comment tu vas vivre? Il faut bien un toit sur la tête, sur quelque chose dans l'assiette, etc. Où je leur répondais, eh bien, le toit, vous le trouverez ensemble. L'assiette, vous la garnirez ensemble. Et vous la mangerez ensemble. Moi, j'ai vu que les groupes qui sont liés, fauchés, sont restés fauchés. sont restés fauchons. Fauchons, c'est le plus bien de faucher. Je fauche, tu fauches, nous fauchons. Il était bon. Je viens de faire un kiff. Donc, en tout cas, c'est clair que il ne faut pas de conditions préalables au mariage sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, sur le plan des idées. Qu'est-ce que tu veux faire de la vie, de notre vie? Comment tu conçois la vie? Tu veux des enfants? Comment tu vas les élever? Dans quel endroit on veut vivre? Pour, parle pas de la maison, mais dans un endroit où il y a une éducation juive, pour nos futurs enfants. Ça, c'est des vraies questions. Parce qu'en fait, on veut voir loin. Et ça vient tout seul. Je crois que le mariage en un mot, c'est la véritable expérience de la émouna, de la confiance en Dieu. J'ai oublié de le dire au début du cours, je le dis parce que j'y pense maintenant, surtout ce cours-là, ne le racontez pas à vos parents. Hein. Alors, moi, je veux l'histoire avec personne. Hein. Ils vont vous interdire de venir ici. Si un jour vous leur dites je vais à Hoche, ils vous prendront. Ils vont vous dire oh, ça n'a pas la tête, non? Effectivement, il faut se brindre la conscience, mais il faut une bonne conscience. Faire en sorte que notre conscience, c'est-à-dire notre capacité de nous juger nous-mêmes, soit bien remplie. Quand on se marie avec des convictions, on n'a pas besoin d'autre chose. Et je crois que ce qui est important, c'est de discuter avant de tout ça. Et puis de découvrir ensemble, par la suite, tout ce qu'il y a à découvrir. Parce que apprendre la Torah chacun de son côté, c'est bien. Mais ça peut prendre des années. Moi, je dis, c'est dommage de perdre du temps. J'en profite pour vous dire à cette occasion ici que plus un mariage est jeune, plus il a des chances de réussir. N'exagérons rien, je ne parle pas de... Enfin, autour de la majorité civile, quoi, vous voyez ce que je veux dire. 18, 19, 20, 21, 22. Après, éclate. Je vais donc vous parler de l'étymologie du mot Isha. Je voudrais aller un peu plus loin. J'ai donc profité de cette occasion philologique pour pour parler du courage. Mais je veux quand même vous rassurer, entre guillemets. Un mariage juif n'est pas basé sur la conscience, je le disais il y a quelques minutes, mais sur une prise de conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? La prise de conscience d'un futur couple, c'est de réaliser que chacun a besoin de l'autre. Et l'autre va lui apporter ce qui ne peut pas être lui-même. En effet, il y a une phrase qui est marquée dans la Gemara de Nida, page 30, qui résume très bien ce que je veux dire. En chesed medibina. Traduction d'abord, explication ensuite. Il n'y a pas d'amour sans connaissance préalable. Ça veut dire qu'on ne peut pas se marier comme ça sur un coup de foudre. Elle est belle, elle est beau, je suis belle, ça suffit, non. Il faut se connaître. Et se connaître comment? Par la bina. Bina, c'est une forme d'intelligence, en hébreu, qui est analytique. C'est-à-dire qui essaye de comprendre vraiment qui est l'autre. Et donc, il faut un certain temps pour arriver à définir ce que l'on est soi-même. Si on fait un mariage pour chacun d'entre nous, c'est une mise à jour de notre propre fichier. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? À quoi joue-je? Ce que je veux dire, il y a une sorte de maturité. Qu'il faut acquérir. Sans être obligé, comme le font beaucoup dans la Torah, de vivre ensemble. En étant juste persuadé qu'on a l'un et l'autre, le minimum commun, le dénominateur commun pour bâtir ensemble notre futur foyer. Mais, plus que nos qualités propres, c'est notre conception, notre idéal, qui va bâtir notre foyer. Si elle veut ce que moi je veux, si il veut ce que moi je veux, on est bien parti. L'occasion ici de me rappeler comment s'est construit le peuple d'Israël. J'ai parlé à l'instant de la filiation, Abraham, Israël, Jacob. Maintenant, un mot des Béné Israël. Les Béné Israël étaient donc en Égypte esclaves, donc dans des conditions difficiles. Aucun homme ne pouvait garantir à une femme, voilà, on va acheter un immeuble ou une maison sur la Côte d'Azur avec vue sur la mer. Il n'y avait ni vue ni mer. Et il y avait quoi? Il y avait chez le peuple une envie de bâtir un peuple. Et alors, comment il a été construit ce peuple? Grâce à deux femmes. Je veux citer, les Égyptiens avaient interdit aux mamans juives, aux femmes juives, d'avoir des enfants. Ils avaient chargé les hommes de vérifier dès qu'une femme était enceinte pour guetter le bébé à l'arrivée et le jeter dans le Nil. Et dès qu'un enfant arrivait quand même à cette étape de la naissance, on le jetait dans le Nil. Perspective peu réjouissante, surtout pour une maman. Vous pouvez se dire, après ça, d'avoir un enfant, il va mourir. Et dans quelles conditions? Noyé. Au canal Nil. Et pourtant, il y a deux femmes qu'on appelle dans la Torah, le mot vient d'ailleurs de l'hébreu, des sages femmes, chachamot, chachama. Mais on voit d'ailleurs, il y a aussi un autre très joli mot, une femme qui permet à une autre de coucher s'appelle Meyaledet. Meyaledot Aïvriot, on parle dans le début du livre de Shemot. Meyaledet, c'est les mêmes lettres que Talmid, élève. C'est-à-dire qu'elle transmettait quelque chose. Quoi ? La Torah nous indique leur nom. L'une s'appelait Shifra et l'autre s'appelait Poix. Shifra vient d'une racine hébraïque Shefer, qui veut dire beau. Et l'autre Poix vient d'une racine qui veut dire Ophara, qui veut dire parler. Que faisaient ces sages-femmes ? Ils n'étaient pas seulement expliqués. Attendait un coup de fil. Donc ça veut dire quoi, une femme, une sage-femme qui portait comme nom la beauté et une autre qui portait comme nom la parole. La parole est synonyme de vérité, la message. Et le Midrash nous dit que quand un bébé venu au monde, les sages-femmes le prenaient en main, l'une pour l'embellir, le nettoyer, le parfumer, le vêtir, avant de le présenter à sa maman, pour qu'elle ait envie de le garder. Elle le rendait beau, chiffre. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle parlait dans l'oreille du bébé. Et elle lui disait, elle lui donnait un message. Elle lui disait, tu sais, j'ai la chance d'être née chez une mère juive, dans des conditions très, très difficiles. Tu vas certainement donner, mais tu as la force de résister. La vie n'est pas faite de confort et de facilité, mais d'épreuves qu'on est capable de surmonter. L'enfant écoutait ce message et était galvanisé par ces paroles. Et de là, nos maîtres ont dit dans le Midrash là-bas que c'est comme ça qu'on construit, qu'on fait naître le peuple juif. Qu'est-ce qu'un juif ? C'est quelqu'un qui est à la confluence de la beauté et de la vérité. En général, on le fait dans la vie, ce qui est beau est rarement vrai. Quant à la vérité, elle ne prend pas le temps d'être belle. Être juif, c'est décider de rendre belle la vérité. Et d'ailleurs, c'est l'étymologie même du mot Israël, que toujours suivant ce midrash, Israël forme les deux mots suivants, Shir, El. Shir qui veut dire le chant, c'est-à-dire une émotion esthétique. El, à la flamette, qui veut dire le nom de Dieu, c'est-à-dire qui connote la vérité. Un juif n'est donc pas quelqu'un qui se moque de la beauté, qui essaye de la chercher, mais de la chercher dans un contexte de vérité. C'est la raison pour laquelle, entre autres, un cours de Torah doit être beau. C'est-à-dire quoi beau ? Exprimer des idées claires, les dire dans des mots agréables, pour porter un message de vérité. En un mot, tout un programme. Et ça, c'est comme ça que les Juifs sont nés en Égypte. Et c'est comme ça que tous les Juifs du monde, depuis, naissent avec cet objectif. À présent, je voudrais revenir sur la spécificité de chacun, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Selon nos sages, l'homme et la femme sont porteurs de deux approches différentes de la vie en général, et même de la Torah. On va exprimer en hébreu, l'un est porteur de la Chochma, l'autre est porteur de la Bina. L'homme est porteur de la Chochma, la femme est porteuse de la Bina. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chochma, c'est une sagesse, mais une sagesse qui est synthétique. Le Midrash se décompose en deux mots, Kochma, sa Chochma. C'est-à-dire la capacité de synthétiser l'existence. C'est un peu le côté masculin. comme l'homme cherche toujours à voir les choses dans leur globalité. A l'inverse, la bina est féminine. Bina vient du mot ben, avec un yud au milieu, qui veut dire entre. Bina, c'est la capacité d'analyser les choses, de voir ce qui a de particulier, de spécifique dans une chose. On peut avoir l'un sans l'autre, et souvent d'ailleurs les hommes ont l'un sans l'autre. Mais un couple, c'est les deux à la fois. Je vais vous donner un exemple élémentaire que j'emprunte à la neurologie. Ceux qui étudient le cerveau humain ont fait depuis ces dernières décennies des progrès considérables grâce aux modes d'investigation comme les scanners, IRM et autres. Et on s'est aperçu que le cerveau était à la fois décomposé, à décomposer en partie supérieure et partie inférieure et de plus en plus inférieure. Il y avait donc des zones dans le cerveau, certaines pour l'imagination, les plus périphériques, d'autres pour la réflexion, plus intérieure, d'autres enfin pour la mémoire, etc. Mais aussi, ils ont vu que la division du cerveau était bicéphalée. Il y avait deux hémisphères. Un hémisphère qui percevait les choses dans leur détail, leur analyse, qu'on pourrait appeler nous dans notre terminologie un hémisphère féminin, et un autre qui voit les choses dans leur globalité. Un exemple pour un peu simplifier les choses. Imaginez un berger qui est en train de garder un grand troupeau, plusieurs centaines de bêtes. Ils sont en train de, ces brebis, ces moutons, de paître dans la montagne. Lui, il est en bas de cette montagne, il regarde son troupeau. Il y a des centaines de bêtes. Eh bien, un berger, et c'est prouvé scientifiquement, expérimentalement, peut tout de suite remarquer qu'il y a une bête qui manque. C'est impossible qu'il les ait comptés. Il en a 500, 800, 1000, je ne sais pas. Il dit, tiens, il manque une brebis. D'où ça vient? Non pas sa capacité à dénombrer très rapidement, mais à sa vision synthétique, globale, comme quelqu'un qui regarderait un tableau et qui le voit dans sa globalité. Il voit tout de suite le défaut que comporte ce tableau. La brebis qui manque. Ainsi en est-il du cerveau, qui perçoit les choses. C'est comme si moi, si j'étais capable, à entendre ce soir ici, sans être obligé de vous compter, je dis, tiens, il manque un tel. Moi, je sais qu'il manque. J'espère que lui aussi, il sait. Je ne vous dirai pas qui c'est. Ça vous demande d'avoir un peu des boules. Non, pour être sérieux, dans la vie, on ne peut pas avoir qu'une seule, on ne peut avoir qu'une perception univoque d'une seule voix. On perçoit les choses et d'un côté et de l'autre. Là encore, on trouve la grandeur, la force d'un couple qui va prendre une décision en confrontant leurs deux perceptions de la réalité. Souvent, par exemple, une femme va être préoccupée par l'immédiateté de la survie. Moi, je pense, mais ça n'engage que moi, je ne l'ai pas lu, que c'est dû au fait que, justement, dans sa fonction de mère potentielle, une mère est préoccupée par la survie de son enfant. Une maman, elle veille à la santé d'un enfant. Elle ne veut pas qu'il tousse, elle ne veut pas qu'il s'enrhume. À forcerait des choses plus graves. Parce que toute petite chose peut être une atteinte à l'intégrité de l'enfant. Un homme voit les choses de façon plus lointaine et globale. Les enfants, ça va bien. Sa femme peut dire, mais non, ça n'a pas très bien du tout. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle va analyser le dossier de l'enfant, et d'un point de vue médical, et d'un point de vue scolaire, etc. Parce qu'elle va percevoir les choses dans leur détail. Mais les percevoir dans leur détail, c'est risqué de ne pas les voir dans leur globalité. Quand des parents parlent ensemble de l'enfant, ils sont capables d'en faire une analyse précise. Et pas seulement de l'enfant, de tout. Dans la vie, c'est ça. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une phrase très belle. Chesed ben Omina. Il n'y a pas d'amour sans connaissance préalable de l'autre. Pour dire que on ne peut vraiment s'aimer que si on se connaît. Mais cette phrase a également une autre mashmaout, on dit bon, on va dire. Une autre perception. Une autre signification, c'est que la femme, je disais tout à l'heure, est porteuse de la Bina, cette intelligence analytique. L'homme est fondamentalement porteur du Chesed. Contrairement à ce qu'on croit pour la Torah, c'est l'homme qui est plus généreux que la femme. Précisément parce que la femme préoccupé par le fusil immédiat. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Mais le chesed de l'homme, s'il n'est pas canalisé, transformé par la bina de la femme, alors il se traduit par des choses épouvantables. À l'inverse aussi, si la femme ne joue pas son rôle de conseillère de son mari, de le mettre dans le chemin qui convient, on assiste à un monde fait de violence et de guerre. À mon avis, la généralisation des guerres dans le monde ne vient pas de l'instabilité politique des peuples, il vient de la mauvaise compréhension du couple. La femme qui ne joue pas son rôle de modératrice, elle laisse son mari risquer de montrer que tout se résout par la force. Et le danger est très grand, on le voit tous les jours et partout. Enfin, je pourrais en dire plus sur ce sujet, mais je ne veux pas m'éloigner. Ah. Je tenais à vous faire également état d'une conception générale la Torah sur ce mot El Chesed Elonina. Suivez-moi bien. Généralement, dans la vie, tout le monde considère qu'on donne quelque chose à ceux que l'on aime. La Torah pense le contraire. Parce que l'on a donné à quelqu'un, on l'aime. En d'autres termes, ce n'est pas « j'aime, donc je donne », mais « je donne, donc j'aime ». Qu'est-ce qui fait que un peintre va aimer son œuvre? La fatigue, le génie qu'elle lui a coûté. Qu'un maçon va aimer sa maison, son mur. Qu'un paysan va aimer son champ. C'est toutes les heures de labeur qu'il y a investi. Qu'est-ce qui fait que une mère va aimer son fils? Tout ce qu'elle lui a coûté comme souci, ce que cet enfant lui a coûté comme souci, les nuits qu'elle a passées à son chevet pour être sûre qu'il respirait bien, en allant l'accompagner chez le médecin, en allant le chercher, en se faisant un souci quotidien. Cette relation du don, elle crée la relation de vous. Si on ne donne rien, on n'aime pas. Et ça, répétez bien cette idée-là, parce que beaucoup de couples échouent, parce qu'ils n'ont pas compris. C'était là la base. En croyant, en s'illusionnant sur le fait que l'amour doit être son spontané, et que j'aime, donc je donne. Non, je donne, donc j'aime. Et vous verrez ça dans tous les domaines de la vie, pas seulement dans la vie conjugale. Vous avez des gens, par exemple, qui vous diront, moi, j'aime prier dans ma synagogue. Et moi, juste pour les techniques, j'en ai pour vous l'avez acheté. Ma synagogue. Je suis là-bas et je fais des dons. À vous donner, vous aimez. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Quand on donne, on aime. Donc, pour aimer, donner. Donner, donner, donner. Non, non. Donc, j'avais peur que ça glisse sur Dieu donner. Non, non. Chers amis, comme je vous l'ai dit en commençant, je peux vous dire maintenant plus explicitement, j'ai passé ma journée aujourd'hui à l'hôpital, je ne peux pas parler de moi et encore moins de ma santé, mais c'était une journée un peu rude. Je ne peux donc pas poursuivre trop longtemps le chiot. J'avais décidé en prenant des notes pour un plan, d'essayer de vous dire l'essentiel en moins d'une heure, ce que je crois avoir fait me concernant. Et je voudrais vous laisser maintenant un peu sur votre faim, mais beaucoup sur un espoir, celui d'abord d'avoir compris, peut-être que vous avez compris, et comment vous allez le prouver en passant aux actes. Vous ne voyez pas tout de suite ce soir, je n'ai pas le temps. Hein. Bien que les salons soient là, à votre disposition, enfin, il faut quelques préparatifs. Et surtout, sachez que indépendamment du mariage, c'est extrêmement important que nous réalisions tous que la vie se construit même quand on n'en a pas les moyens. Et bâtir sans moyens, c'est assurer un avenir, contrairement à ce que le monde dit. Essayez donc de casser tous ces préjugés. En vous rappelant que l'essentiel du couple de la Torah, c'est d'être un microcosme. Je rappelle étymologiquement microcosme, un monde en miniature. Le couple, c'est le monde tel que Dieu l'a conçu. Il nous appartient à chacun de réaliser cet endroit géométrique dans lequel toutes les aspirations divines deviennent réalité. Vous le pouvez. C'est extraordinaire de savoir qu'on est porteur du projet le plus important, le plus grand, celui du Créateur, et que s'il fallait vous en convaincre, essayez de vous rappeler que Hachem a confié cette mission à un peuple petit, Israël, un peuple faible, Israël, un peuple dispersé, Israël, mais un peuple qui a envie de construire tous les jours. Il faut garder l'humilité devant la tâche immense qui nous attend, mais également la conviction qu'elle est à notre portée. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, ce que j'avais à vous dire. Expliquer ce dont je n'ai pas parlé, qu'on appelle les mariages mixtes. Parce qu'en fait, tous les mariages sont mixtes. Mais je veux dire, entre juifs et non-juifs, parce que nous respectons tout le monde, chacun a sa vocation. Se marier avec un non-juif ou une non-juive, c'est tout compliqué. C'est se persuader d'un échec. Moi, j'ai une certaine expérience de la vie. Je ne parle pas d'après mes convictions, mais d'après mon expérience. Je n'ai jamais vu un couple dit mixte heureux. Vous avez des gens qui ont trouvé de très bons compromis, intelligemment, et qui ont réussi vraiment à vivre intensément, pas seulement un amour parfait. Également l'idéal parfait qui les maintient du début à la fin de la vie. Rappelez-vous que bon, j'aime la vie, c'est pas seulement une jeunesse pétillante, une maturité séduisante et une vieillesse épuisante. La vie, c'est tout ça à la fois. Et donc, trouver son conjoint ou sa conjointe qui va nous accompagner tout au long de cette vie, c'est prendre en compte tout ça. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous méfier, tant les garçons que les filles, de la séduction. Je l'aime, donc je veux ma vie avec lui, peu importe sa religion, peu importe ceci, peu importe cela. On va droit à la cabasson. Je dis pas ça simplement par le principe, mais par, je répète, expérience. Et j'ai une expérience d'environ combien ? Et donc, 3300. Vous me feriez extrêmement chaud au cœur en me croyant sur parole et en tenant compte de ces quelques propos. Et je voudrais vous demander, poser une dernière question. Est-ce que vous avez une idée d'un coup pour la prochaine fois au mois de mars ? Moi, j'avais pensé à un moment donné, vous parlez d'antisémitisme et de la Alia. Mais je suis comme d'habitude ouvert à tous les sujets, à condition de me le dire un peu à l'avance, pour que je puisse les mûrir et les préparer comme il convient. Parce que le moindre respect qu'il y a à mettre devant ses élèves, c'est de préparer ses cours. Ce que j'essaie de faire, modestement, mais aidez-moi, en me proposant un thème qui vous attire, qui vous convient, ou sur lequel vous avez envie de connaître votre opinion. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.